C'est un revirement en plusieurs actes.
On doit réduire notre dépendance au nucléaire.
Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire.
Pragmatique face à l'urgence climatique et les prix de l'énergie qui flambent, Emmanuel Macron a fait le choix du nucléaire. Une énergie décarbonée, aime-t-il préciser. À sa demande, EDF va racheter à l'américain General Electric l'activité de fabrication des turbines Arabelle pour réacteurs nucléaires. Le site industriel se trouve à Belfort. C'est là, cet après-midi, que le chef de l'État a annoncé la fabrication de nouveaux réacteurs.
Compte tenu de la hausse très importante de nos besoins électriques, je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels.
Cette relance du nucléaire est dénoncée par les écologistes.
C'est son choix, c'est un choix politique.
C'est un choix que vous caractérisez comment ?
De passé, un choix obsolète.
Et pourtant, l'atome opère un retour en grâce au-delà de la France. À Bruxelles, la Commission européenne vient d'intégrer le gaz et le nucléaire dans son classement des activités vertes capables d'accompagner la transition écologique. Un blasphème pour les ONG environnementales.
Des millions d'euros destinés à des énergies renouvelables vont financer des énergies sales.
Alors, le nucléaire est-il vraiment une énergie verte ? La relance de l'atome en France est-elle compatible avec le développement des énergies renouvelables promis également aujourd'hui par Emmanuel Macron ? La politique énergétique française demeurera-t-elle longtemps dépendante du nucléaire ?
Le chiffre du jour, le chiffre annoncé par Emmanuel Macron.
Par Emmanuel Macron tout à l'heure, il a dévoilé donc son vaste plan de relance du nucléaire civil en France avec la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR et l'étude de la mise en chantier de 8 autres avant 2050. Alors Erwan Beneze, avant de revenir sur ces 6 réacteurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer la révolution qui a eu lieu dans les esprits et dans les opinions en 5 ans ? C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, les politiques avaient le nucléaire honteux et l'éolien avantageux. Et là, Emmanuel Macron fait un discours à vue aussi électorale sur le nucléaire et pro-nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les mentalités changent à ce point-là ?
Alors, il est vrai que Emmanuel Macron en a parlé tout à l'heure lors de son discours à Belfort. Il parlait d'un hiver nucléaire. On se souvient, donc 2011, la catastrophe de Fukushima. Et puis ensuite, pendant 10 ans, le nucléaire effectivement remis en question. Et aujourd'hui, il revient en force. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que pendant plusieurs années, la filière nucléaire a essayé de faire entendre sa voix. Elle a rencontré un gouvernement aujourd'hui qui est en cohérence avec ses stratégies. Et donc, 10 ans ont passé, les mémoires se sont peut-être un petit peu effritées. Et donc, on se retrouve avec une bascule qui me fait un petit peu penser, toute proportion gardée, à celle qu'on a connue dans les années 70, en 74. Quand on a lancé cet immense chantier industriel, le plus grand de notre histoire, avec la construction à la clé d'une 60aine de réacteurs.
Myrto Tripathi, 6 nouveaux réacteurs nucléaires, ça veut dire qu'ils seront utilisables quand ? À partir du moment où on les lance maintenant ?
Alors, si je me réfère notamment à ce que le président de la République a annoncé tout à l'heure, parce qu'effectivement, ce genre de choses, ce genre de grands projets d'infrastructure sont particulièrement complexes et longs à construire, et il faut qu'on prenne notre temps. Pour les construire, ne seront en mesure d'être lancés et les constructions entamées qu'aux alentours de 2035 avec une mise en ligne 35-40. Donc effectivement, ça prend un certain temps. C'est aussi pour ça que la décision doit être prise dès que possible, très rapidement, parce qu'on a un parc extrêmement performant, mais qui pour autant va devoir nous tenir jusqu'en 2050 et après, puisque la vie ne s'arrête pas en 2050, qui est l'échéance donnée par les accords de Paris pour atteindre la neutralité carbone, et qu'il va falloir que nous renouvelions toutes nos capacités de production électrique décarbonée autant que possible, aussi vite que possible.
Anne Morago, vous aviez l'air sceptique sur la performance du parc.
Alors, la performance du parc, elle n'est pas là. Clairement, on a plusieurs réacteurs nucléaires actuellement à l'arrêt pour des questions
pour
de corrosion, entre autres. Donc, quand on a un problème détecté sur un réacteur, on est obligé de vérifier sur les autres réacteurs équivalents s'il n'y a pas le même problème. Donc on a actuellement 11 réacteurs à l'arrêt.
Sur combien ?
Sur 56. Mmh. Plus toutes les maintenances des réacteurs qui ont été décalées suite à la période Covid. On voit bien que c'est une énergie qui est beaucoup moins résiliente aux crises que les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, on continue à produire. Il y a eu du soleil, du vent pendant la crise sanitaire.
Les énergies renouvelables, c'est les éoliennes, le photovoltaïque. Il y en a d'autres.
Tout à fait. Il y a aussi la géothermie, par exemple, à partir de la chaleur. Il y a aussi le bois. Il y a aussi
l'hydraulique.
L'hydraulique. Il y a tout un ensemble, effectivement, de sources d'énergie renouvelable qui peuvent produire de l'électricité ou produire de la chaleur. Il n'y a pas que l'électricité dans le mix énergétique français.
Erwan Beneze, il y a une question qu'on se pose quand on n'y connaît rien, comme moi, qui est pourquoi créer de nouveaux réacteurs alors qu'on en ferme d'autres ? Est-ce qu'il était possible de ne pas fermer, par exemple, Fessenheim, plutôt que d'essayer de créer de nouvelles centrales ou de nouveaux réacteurs ?
Alors, je ne vais pas émettre un avis, je vais émettre un fait, qui est, en tout cas, de l'autorité de sûreté nucléaire, qui est en fait le gendarme du nucléaire. C'est lui qui a la compétence technique de dire si un réacteur peut être prolongé ou non. Mmh. Et à l'époque, il disait qu'effectivement, Fessenheim pouvait être prolongé. Donc, après, on peut être d'accord en termes de dogme ou de poursuite du nucléaire, mais techniquement, il était possible de le prolonger. Il a été arrêté, la centrale a été arrêtée, les deux réacteurs ont été arrêtés en 2020, après 43 ans de bons et loyaux services, pour des raisons politiques. Ça, je trouve ça un petit peu gênant.
C'est-à-dire pour des raisons politiques,
quoi. Parce que François Hollande, en 2012, annonce 50%, le plafonnement à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité. On est les champions du monde dans la part, parce qu'on est monté jusqu'à 75-80%. Il dit on va descendre à 50%, on va commencer à fermer des centrales. Et donc, il décide que la première sera la plus ancienne. C'est logique, même si c'est peut-être pas forcément celle qui est en plus mauvais état. Il dit que ça sera Fessenheim. Il lance l'arrêt, et à partir de là, ce sont des investissements de la part d'EDF qui ne sont pas faits sur Fessenheim. Et même si le gouvernement d'après avait voulu, en tout cas c'est ce qu'il dit aujourd'hui, avait voulu inverser la décision.
Le gouvernement d'après, c'est celui d'Emmanuel Macron.
Oui, exactement. Et puisque donc à partir de 2012, il n'y a pas les investissements nécessaires, surtout post-Fukushima, et donc on arrête cette centrale. Et aujourd'hui, on prolonge l'activité de certaines centrales à charbon, puisqu'on passe à un hiver un peu compliqué, pour des raisons notamment de disponibilité du parc nucléaire, et Fessenheim aurait peut-être pu rendre certains services.
Oui, peut-être là-dessus, sur les centrales à charbon, effectivement, ça c'est un vrai problème. Alors, n'oublions pas que la production d'électricité en France, c'est moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment assez marginal. Les secteurs émetteurs, c'est les transports, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie. Donc on est quand même sur un secteur qui est déjà très décarboné. Néanmoins, il faut fermer les centrales à charbon. C'était un engagement. On a 4 centrales à charbon. Et actuellement, on continue à les utiliser parce qu'on a des réacteurs nucléaires effectivement très nombreux à l'arrêt. Donc un système très tendu. Mmh. Et notamment l'hiver, quand il fait froid, que tout le monde allume son chauffage électrique, parce qu'on a beaucoup développé le chauffage électrique, on a besoin à ce moment-là d'autres moyens de production, donc les centrales à charbon. Sauf que ça fait des années que nous, au réseau Action Climat, on alerte pour dire qu'il faut développer les énergies renouvelables et il faut surtout faire des économies d'énergie, il faut isoler les logements.
Vers la rénovation thermique, donc.
Tout à fait, isoler les logements, y compris ceux chauffés au chauffage électrique. On nous dit non, mais on change juste les chauffages au fioul, c'est bon pour le climat. Oui, mais les gens qui habitent un logement avec un chauffage électrique, qui ont des factures qui explosent, c'est pas possible de les laisser dans cette situation. Donc il faut isoler les logements. Il faut aussi décaler la consommation de certains, certains éléments quand il fait très très froid et qu'il y a une pointe. Oui. Tous ces travaux, on avait demandé un groupe de travail, juste un groupe de travail au ministère sur la pointe électrique, la maîtrise de cette pointe, ce pic de consommation en hiver.
Vous ne l'avez pas eu.
De créer un groupe de travail n'a pas été autorisé.
On s'en doutait.
C'est un tabou.
Une question sur la sûreté, la sécurité, Vincent ?
Oui, parce que c'est une des grandes questions, c'est la grande question qu'on se pose quand on évoque le nucléaire, les failles de sécurité.
Et l'opacité autour du
nucléaire. Quel budget est consacré à cette sécurité ? Dans quelle mesure les populations peuvent être absolument rassurées sur cette sécurité, puisque c'est le dernier en fait, obstacle, puisque la question de savoir si le nucléaire est une énergie décarbonée est quasiment maintenant acquise, pour l'utilisation de cette énergie ?
Écoutez, je pense que les 40 ans de nucléaire français, le bilan qu'on peut en tirer pour 75% de l'électricité des Français, atteste d'abord de la rigueur avec laquelle l'opérateur EDF gère les centrales, atteste aussi d'un fait qui est bien connu du monde nucléaire mondial, qui est que l'autorité de sûreté nucléaire française est l'autorité de sûreté la plus contraignante et la plus exigeante au monde, y compris par rapport à l'autorité de sûreté nucléaire allemande. Et pourtant, Dieu sait que les Allemands ne sont pas particulièrement pro-nucléaire.
Et donc, est-ce que c'est un coût très important, cette exigence ?
Par exemple, bah, c'est un coût, oui, très important, parce que c'est complètement prééminent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'objectif supérieur à celui-là. D'ailleurs, l'exemple que vous avez donné de l'incident de corrosion, c'est effectivement, il y a eu la détection de quelque chose d'anormal, une anomalie à laquelle ils ne s'attendaient pas. Les centrales concernées ont été arrêtées. Il y a des évaluations qui ont été faites. Ça ne concernait pas des éléments en opération. Il vient d'être annoncé que ça ne remettait pas en cause les fonctionnalités des équipements qui étaient touchés, et ça ne le seul problème que ça impacte, c'est celui de éventuellement ça aurait pu être de changer le calendrier des maintenances. Et effectivement, ça aurait été un problème, parce que vous avez raison, la situation aujourd'hui du parc électrique global français est extrêmement tendue. D'abord parce que effectivement le parc nucléaire a assuré tout l'approvisionnement électrique de la France pendant toute la phase Covid, qui a été très importante,
et puis
a été extrêmement sollicité. Et n'oublions pas, puisque Anne parlait des pointes tout à l'heure, c'est un sujet extrêmement important, que malheureusement, l'éolien et le solaire ne peuvent pas garantir les pointes, c'est-à-dire les pics de consommation.
Un approvisionnement constant.
Comme ça a été le cas. Alors, par exemple, permettez-moi juste ce petit complément. Donc là, en ce moment, le parc a effectivement des difficultés, mais est quand même à 80% de sa disponibilité, ce qui est quand même énorme. On a traversé cet hiver et au début de l'automne des phases où, par exemple, le parc éolien était à 6-7%.
D'accord.
Donc, on est quand même, malgré les difficultés, sur une technologie qui assure la base de la consommation électrique française.
Alors, on y reviendra peut-être, mais d'abord, on va évoquer avec vous, Nadia, la qualification, la taxonomie, comme on dit dans un langage savant, des énergies selon la Commission de Bruxelles, c'est
exactement.
Bien ça, Parlement, oui, la Commission européenne.
La Commission européenne.
Alors, qu'est-ce qui est vert ?
Alors, il y a d'abord eu des mois de tractation, en effet, et puis la semaine dernière, cette Commission européenne a décidé donc d'inclure le gaz et le nucléaire dans cette taxonomie verte, c'est-à-dire la liste des activités qui peuvent bénéficier des aides financières à la transition écologique au titre de leur capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette décision a sans doute suscité des protestations de nombreux pays, dont l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne ou encore le Portugal. Pour les autres pays, dont la France, c'est une bénédiction, entre autres parce que les caisses sont vides, reste que ce label énergie verte, puisque c'est ce dont il s'agit, va rester soumis à des conditions qualifiées de strictes par la Commission. En ce qui concerne le nucléaire, les conditions sont les suivantes. Pour la construction de nouvelles centrales, les projets devront avoir obtenu un permis de construire avant 2045. Les travaux qui vont permettre la prolongation de la durée de vie devront être autorisés, avoir été autorisés avant 2040. Et cette taxonomie, elle recèle aussi un principe fondamental baptisé DNCH, Do No Significant Harm en français. Ça veut dire qu'une activité soutenue par des financements ne doit pas créer de dommages collatéraux. Et évidemment, la question se pose sur la gestion des déchets. Erwan Beneze, avec cette taxonomie verte, est-ce qu'on est en train de déshabiller le renouvelable pour habiller le nucléaire et le gaz surtout ?
Alors le propos
officiel, qu'est-ce qui va se passer là ?
Le propos officiel, c'est pas forcément de dire que le nucléaire est vert, mais en tout cas, c'est de dire que le nucléaire, comme le gaz d'ailleurs, est une énergie de transition. Voilà. La nuance est quand même importante, puisque quelque part, ça impose une limitation dans le temps. Après, aujourd'hui, effectivement, ça permet de flécher des investissements vers le nucléaire, ce qui n'aurait pas été possible, ou en tout cas plus difficile, si ça n'avait pas été...
D'où les annonces d'Emmanuel Macron.
Exactement, et d'où aussi le fait que Bruno Le Maire avait joué un peu la pression, notamment au salon du nucléaire en novembre, à Paris, à Villepinte, où il disait qu'il y avait une ligne rouge qui ne devait pas être franchie. Okay. Pour la France, c'était presque, en tout cas pour la question nucléaire, une question de survie. Le nucléaire n'aurait pas pu réellement se développer. Emmanuel Macron n'aurait pas pu aujourd'hui présenter son plan.
Avec de l'argent public.
Si le nucléaire n'avait pas été inclus dans la taxonomie, parce que ça aurait été effectivement dans ces cas-là de l'argent public, très peu d'argent d'investissement privé, et ça n'était pas, le modèle économique n'était pas viable.
C'est un véritable scandale, cette taxonomie, parce que la France a fait un deal finalement avec les pays qui défendaient le gaz, notamment les pays d'Europe de l'Est, qui voulaient du gaz fossile, et l'Allemagne qui voulait du gaz gaz fossiles dans la taxonomie. La France voulait du nucléaire et finalement, elle a fait un deal. On accepte de ne pas râler sur le gaz fossile, qui est quand même émetteur de gaz à effet de serre et très négatif pour le climat, pour essayer d'y mettre notre
c'était
nucléaire.
C'était gaz contre nucléaire, oui, c'était ça le
donc
le
deal, c'était de mettre les deux. Et c'est très négatif. Dans les deux cas, ce ne sont pas des énergies vertes. Et dans les deux cas, ça retarde la transition. Donc c'est quelque chose qui est très négatif. Pourquoi ils font ça? Les scénarios RTE qui ont été faits, qui étudient